Bonsoir.
Bonsoir à toi. Alors, une première question sur le fait que Pancake est un roman et que c'est un roman qui, pour moi, part d'une particularité physique qui touche une personne et que cette particularité physique va toucher le monde complet, va notamment toucher le monde complet parce que, à la fin, son ventre englobe l'univers.
Oui, tout à fait. Le projet, en fin de compte, de Pancake, hein, part sur le problème de l'individu. Donc, je crois que tu as tout à fait raison de préciser. Ça part d'une particularité physique, au sens où c'est le corps. Hein, disons, une grande partie de la littérature moderne et d'avant-garde est travaillée par cette notion de corps au XXe siècle. Quelque chose qui pour moi était d'une évidence problématique en tout cas quand j'ai écrit Pancake, et bien sûr c'était de viser quelque chose à partir de cet individu donc qui a cette espèce de muqueuse qui naît au niveau de l'abdomen, de viser après quelque chose qui interroge notre société, c'est-à-dire le corps comme le moyen d'interrogation de la société, au sens où nous sommes submergés à longueur de temps par les paradigmes du corps, hein, le corps marchand, bon, il faudrait aller vers la monnaie vivante, par exemple, de gens comme Klossowski et bien d'autres. Et donc, comment une particularité qui est une monstruosité, à la fois crée un premier mouvement, qui est un mouvement d'individualisme très fort de l'individu, du narrateur ou du personnage, l'individualisme même totalitaire, puisque c'est ce renfermement sur lui-même, jusqu'au moment où il va devenir univers, et sans trop révéler effectivement ce dernier chapitre, il y a un retournement complet effectivement de la perspective de l'individualisme dans une forme de générosité, en fin de compte, c'est-à-dire la compréhension que nous ne pouvons pas nous renfermer à un moment donné, mais nous sommes obligés d'être dans l'ouverture. Hein. C'est une forme. C'est pour ça que je disais que c'est une épopée, hein, vraiment, et pratiquement une chanson de geste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, du roman de rédemption, hein, qui vise une rédemption, mais à travers une monstruosité, une noirceur, qui est celle du personnage.
Alors, là, tu nous expliques bien à la fin de ce que tu dis, pourquoi tu as utilisé la forme du roman. Parce que moi, par exemple, qui te connais par les textes en revue que tu fais publier, j'ai été étonné que tu puisses employer la forme du roman. Alors, pourquoi cette forme du roman est absolument nécessaire pour écrire Pancake ?
Alors, d'abord, avant d'en venir sur la forme du roman et de Pancake, du moins particulièrement, c'est vrai que je suis plus connu pour des textes qui appartiennent à la poésie contemporaine, et de l'autre côté, des expériences multimédia. Mais pourquoi ? Parce que c'est le parcours, je dirais, que la plupart des écrivains ont. On apparaît en revue. Et donc, notre première forme d'expression, la plupart du temps, sont des textes courts. Et c'est vrai, avec quelque chose qui est le champ contemporain français, en tout cas, qui est celui de la poésie, est très hybride. Fin de compte, hein, on peut retrouver sous la catégorie poésie aussi bien de nouveaux types de narration, des expériences qui sont proches de l'essai. Donc on a beaucoup de choses. Donc on m'a caractérisé plutôt poète, en fin de compte. Mais historiquement, dans mon parcours, mon premier roman est terminé très jeune. Et en fin de compte, j'ai écrit beaucoup de nouvelles et beaucoup de romans. Mais le Pancake est le premier roman qui sort, et il sort en 2007, effectivement, puisqu'il est sorti en mars-avril 2007. Donc déjà, il y a un parcours personnel, j'ai toujours énormément été attiré par la nouvelle et le roman, et notamment fantastique. C'est-à-dire que mes références à moi à l'origine sont aussi bien Edgar Allan Poe d'un côté, Borges, Cortázar, Lovecraft, pour citer les plus connus. Hein, j'ai été vraiment irrigué très jeune par cela, plus une littérature moderne française comme Boris Vian, effectivement, qui mêle le fantastique dans un certain nombre de ses récits. Donc, la question du roman, c'est la question de la narrativité, et la question, effectivement, de la linéarité. Moi, je me posais énormément la question de la linéarité. C'est-à-dire, Pancake est un roman, c'est vrai, à première vue, quand on le prend, est un roman très linéaire. C'est-à-dire, alors qu'on développe, et je pense à la très très belle expérience que fait actuellement François Bon dans la collection Déplacement, on développe effectivement des tentatives de textes non linéaire, fragmentaire, qu'on retrouve dans la collection donc Déplacement, mais en fin de compte qui irrigue depuis 40 ans, 50 ans la littérature. Moi, justement, je me place de ce côté-là, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est un schéma narratif linéaire, comment on le réinterroge, au sens où il me semble que la conscience humaine a toujours tendance à revenir vers la linéarité, c'est-à-dire vers le système du cause à effet, ou en tout cas de la structuration temporelle. Quand je dis cela, c'est une évidence, hein, c'est-à-dire c'est pas un mystère. C'est pour cela qu'il y a un cinéma grand public, c'est pour ça qu'il y a des séries, c'est pour ça qu'il y a de la chanson populaire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce qui fonctionne communément, c'est cette linéarité. Mais je crois que justement le génie de beaucoup de gens que j'admire, hein, à commencer par Proust, c'est que on lit À la recherche du temps perdu, ça pourrait être pris comme un roman linéaire, hein, en partant de l'enfance de Proust et du côté de chez Swann, et donc de ce qui va devenir le paradigme, en fin de compte, qu'on retrouvera à la fin, effectivement, sur le problème de l'antisémitisme dans le dernier tome, hein, et la soirée à Saint-Germain. Bon, on pourrait prendre ça comme un roman linéaire, alors qu'à longueur de temps, nous avons une interrogation de quoi ? De la rupture, du fragment, de la relation. Et, en fin de compte, nous sommes face à un chaos. Quand on lit La recherche du temps perdu de Proust, c'est un chaos dans la linéarité. Et je crois que, justement, la conscience humaine est à longueur de temps dans cette oscillation entre chaos, et j'ai envie de dire cerveau, c'est-à-dire l'oscillation entre la structuration de la linéarité et de l'autre côté l'impossibilité de se désengager de quelque chose qui est une forme chaotique. Et donc Pancake, je l'ai construit comme quelque chose qui est un roman linéaire pour interroger la question du chaos dans la structuration du temps. Et en fin de compte, quand on regarde bien, il y a eu certains commentaires qui m'ont beaucoup touché, hein, dans les chroniques qui ont été faites, et ben effectivement, on a des phénomènes de récurrence, de boucle, de désagrégation du récit qui se produisent à longueur de temps. Et en fin de compte, derrière cette linéarité apparente des chapitres, il y a quelque chose qui est une structure beaucoup plus complexe que la linéarité. Et je crois que, effectivement, c'est ce que permet le roman, et c'est ce que n'engage pas forcément a priori la poésie, parce que justement la poésie, en tout cas dans certaines formes contemporaines, etc., est allée très rapidement vers la fragmentation, le parcellaire, l'amnésie. Hein. Alors là, on pourrait aller prendre des expériences très extrêmes, hein, d'André Dubouchet, par exemple, ou d'autres gens comme Dupin, c'est-à-dire le trou ou la blancheur qui hante complètement le récit. Donc voilà pourquoi le Pancake est un roman.
Alors, on a parlé de Pancake, on va commencer à glisser un petit peu vers la poésie, puisqu'une autre partie de tes activités, c'est de réaliser des performances multimédia. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce type de performance, que là, bien sûr, à la radio, ça passe pas pareil qu'un texte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ?
Oui, tout à fait. Alors, donc, les performances multimédia, pour moi, donc, ça s'inscrit à partir de 1999, la création de vidéos poésie, hein, ou de vidéos poétrie. Hein. D'ailleurs, je suis très heureux, là, parce que demain, je reçois le Grand Prix multimédia de la Société des gens de lettres à Paris, justement, pour cette création qui est apparue sur Internet à partir de 2000, puisque c'est à partir de 2000 que j'ai commencé à les mettre sur Internet. Donc, moi, je suis parti sur quelque chose, justement, qui est le texte. C'est-à-dire, je ne viens pas des arts vidéo, ni des arts numériques, ni du web art. Hein. C'est-à-dire que c'est le problème de la sensibilité. Comment, en fin de compte, toucher par le texte? Donc on sait que dans le siècle, il y a eu beaucoup d'expériences, le spatialisme, le lettrisme, le futurisme, sur le problème de comment inscrire le mot dans l'espace de la page. Et il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est l'expression de Raoul Hausmann, d'arriver à une œuvre verbi-voco-visuelle. C'est marquant au sens où ça demande de dépasser la galaxie Gutenberg, pour reprendre cette expression de MacLuhan, pour être dans une autre forme d'écriture, ou en tant, ou en tout cas penser l'écriture, non pas à partir du verbe, mais à partir de quelque chose qui a un fond, qui est en deçà de la séparation entre d'un côté le verbe, de l'autre côté la musique, de l'autre côté l'image, et notamment l'image animée, c'est-à-dire l'image cinétique. Et donc je suis parti en 99-2000 sur la création de vidéopoésie. Et donc je le dis bien, la vidéopoésie n'est pas la juxtaposition d'un texte et de l'image, c'est l'image et le texte sont mêlés en même temps, c'est un projet global. Et bien sûr, vient la question de comment on présente ça en public. Et de plus en plus, m'est apparu, comment touche-t-on un public ? C'est-à-dire comment faire sentir cette sensibilité, notamment chez moi qui interroge beaucoup le corps, à partir d'une expérience en live. Et là, à ce moment-là, donc j'ai commencé à développer effectivement des installations où je passais la vidéo et j'intervenais avec la vidéo. Pour en arriver là depuis 2 ans et surtout depuis cette année, en fin de compte, cette année, c'est vrai que là, au Festival Hypoétrice qu'on a montré avec Hortense Gauthier dans le cadre donc du Festival Hypoétrie, c'était une œuvre interactive où la voix d'Hortense Gauthier que je retraite est interactive par rapport à l'image, modélise l'image, transforme les textes, génère par exemple des textes aléatoires, c'est-à-dire le texte n'est pas écrit, mais c'est la voix qui, effectivement, va être transformée en certaines données numériques, et ces données numériques, effectivement, vont être interprétées par un programme que j'ai écrit, au point de créer aléatoirement des mots, des phrases. Donc, le but, c'est d'arriver à une œuvre, j'aime pas le mot œuvre totale, parce qu'elle est très critiquable, mais en tout cas, à une œuvre qui n'existe pas avant la présence que l'on a sur scène. C'est-à-dire qu'elle se crée, l'œuvre, à partir du programme qu'on a écrit, elle se crée au moment même où nous la présentons, et il n'y aura jamais 2 fois la même œuvre. Et là, par exemple, les dernières expériences sur lesquelles je suis en train de développer, à partir d'un logiciel qui est proche de Max MSP, hein, qui, pour ceux qui connaissent, hein, qui est un logiciel qui est utilisé beaucoup par les musiciens, mais qui s'appelle, le logiciel s'appelle Pure Data, dans un seul logiciel, on peut mêler le son et l'image, tout ça en interaction avec des capteurs mis sur le corps, avec des tables MIDI, et à ce moment-là, l'œuvre est unique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait une œuvre unique. Et cette œuvre unique, donc, elle est donnée à un moment unique, ce qui veut dire qu'on est vraiment, je crois, dans ce kairos, c'est-à-dire dans la rencontre, hein, kairos au sens de la rencontre du lieu, du contexte, de la bonne rencontre, dans le kairos, effectivement, d'un public. Ce qui veut dire que si ça ne réagit pas, bien sûr que l'œuvre va être modifiée par la non-réaction d'un public. Par exemple, s'ils font du brouhaha, si on est énervé. Tout ça peut influencer. Et je crois que c'est effectivement d'arriver à une poésie vivante. Et là, j'emploie le mot poésie vraiment dans le sens pour moi le plus fort. C'est-à-dire une production. Hein, j'aime beaucoup le mot grec de produire. On produit d'une façon vivante quelque chose. On transpose, j'aime aussi beaucoup le mot métaphore, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans la métaphore, c'est-à-dire dans l'invention d'une image.
Alors, là, tu expliques vraiment fantastiquement bien ce qu'est une performance, quels sont les enjeux de la performance, de faire une œuvre en direct où c'est mêlé, où c'est effectivement global. J'aimerais également parler de tes activités dans ces cas-là qui sont liées à ça. Tes activités sur le net, tes activités avec Libre Critique. Est-ce que tu peux nous parler de Libre Critique et du coup de tous ces enjeux qui me paraissent essentiels pour toi, qui est de lire le travail des autres, de comprendre le travail des autres créateurs expérimentaux, les autres créateurs contemporains, et d'expliquer et de montrer leur travail.
Alors, en effet, bon, Libre Critique. Alors pour le situer, donc Libre et Critique, quelque chose que je développe en collaboration avec Fabrice Tumrel. Donc on est 2 sensibilités différentes. Hein. Lui il vient de la sociologie de la littérature. Moi je suis plutôt écrivain et philosophe. Donc c'est vrai que c'est une rencontre. Hein. Donc après je suis le webmaster, c'est moi le programmateur du site et c'est moi qui suis le responsable éditorial. Mais c'était à deux. La chose Libre et Critique, c'est la chose qui m'est devenue évidente par la rencontre de gens justement comme Michel Giroux, qui s'occupe des presses du réel, comme Julien Blaine, comme Philippe Castelin, c'est-à-dire d'une génération qui est plus vieille que la nôtre, mais qui ont eu le souci dans leur revue de toujours parler justement de l'écriture des autres, et d'un point de vue généalogique, de dire on ne vient pas de nulle part. On ne peut pas arriver et se croire le nouveau. Même si on fait des choses qui, par leur médium, sont nouvelles, même si on a des questions nouvelles, il faut quand même réinterroger toujours à l'aune de quelque chose qui s'appelle les autres. J'ai envie de dire, c'est une expression de Christian Prigent, ceux qui peuvent faire compagnie avec nous. Qu'est-ce que c'est faire compagnie avec nous ? Tu as eu Christian Prigent d'ailleurs en interview, tu vois, il y a quelques mois, et je crois que c'est quelqu'un, Prigent, qui m'a beaucoup appris à lire les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je crois, actuellement, faire semblant. Pourquoi ? Parce que si nous faisons semblant, surtout quand nous sommes dans le champ contemporain, c'est-à-dire semblant d'être nouveau, etc., d'être exclusif, nous sommes en train de jouer le jeu de ce que nous voulons critiquer. C'est-à-dire ce que j'ai appelé depuis 2001 le néolibéralisme littéraire. Hein, je fais partie, en tout cas, des gens qui ont très tôt insisté sur la question du néolibéralisme littéraire, c'est-à-dire comment les écrivains contemporains rentraient dans une entreprise d'eux-mêmes, de vente d'eux-mêmes. Et on a beaucoup d'exemples dans le champ contemporain de gens qui font du commerce d'eux-mêmes et qui se fichent éperdument des autres. Et donc, j'ai fait des critiques. J'avais une petite maison d'édition où je faisais les postfaces pour expliquer le travail des gens. Je fais des critiques pour le CCP, pour d'autres magazines et revues. Et à un moment donné, je me suis dit, ça ne me convient pas. C'est-à-dire, c'était une question de modalité. Chaque écriture critique doit avoir un mode comme une écriture de création, je crois. Moi, ce qui ne me convenait pas, et par exemple, je respecte tout à fait le travail du CCP, hein, je le trouve très intéressant et je trouve qu'il a le mérite d'avoir une exhaustivité assez unique, mais par exemple, écrire simplement 500 signes sur un texte, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que mon mode, à moi, ne rencontre pas ça. Et certes, il paye, mais je me fiche d'être payé pour écrire 500 signes. Je préfère faire gratuitement, puisque Libre Critique est complètement gratuit, quelque chose qui est en rapport à mon mode. Alors mon mode, c'est quoi ? C'est de pouvoir faire un article, par exemple, j'ai écrit des articles de 30 pages qui posent des questions. Avec Hortense Gauthier, on se déplace, on prend notre caméra et on a lancé et quelque chose qui s'appelle Vlog Trotteur, hein, suite à une initiative qui s'appelle Blog Trotteur, qui concerne beaucoup plus le problème de la mémoire, des génocides, etc., lancé par Tristan Mendès France. Nous, on a lancé Vlog Trotteur sur le problème de la culture, et on fait des kilomètres, gratuitement, pour interviewer les auteurs, pour témoigner de ce que font les gens. Et en fin de compte, je voulais que Libre et Critique soit une espèce d'espace assez unique, dans non pas ce dont on parle, mais la manière dont on en parle. C'est-à-dire que je crois, et ça a été reconnu en tout cas par pas mal de personnes, que c'est un lieu quand même assez spécifique maintenant sur Internet pour trouver des textes de recherche, des conférences, des chroniques, des interviews vidéo. Alors je lis quand même, je suis quand même un des pionniers hein, des interviews vidéo, parce que mes premières interviews vidéo que j'ai publiées sur Internet, c'était en 2000, hein, d'écrivains, donc ça remonte, hein, Libre Critique, c'est dans la continuité de ce que j'avais appelé les interviews Z. Et donc toute cette modalité qui, d'un coup, effectivement, témoigne de quelque chose qui est « nous sommes en compagnie des autres ». Je ne suis pas contre les autres quand j'écris, mais je suis avec les autres. Je chemine dans la lecture des autres, même s'ils ne me plaisent pas. J'ai envie d'en parler. Et je crois que c'est très important de témoigner de cela. C'est pour ça que j'aime d'autres expériences, hein, comme Remu.net, par exemple. Hein, c'est-à-dire de gens qui prennent le temps de témoigner de l'existence d'autrui. Et je pense qu'il y a une éthique. La question éthique est une question urgente à élaborer actuellement. Je pense que chez les modernes, il y a eu une question éthique. Et je la vois, en tout cas, tendanciellement disparaître, parce que je crois qu'on est dans un symptôme de la société libérale, c'est-à-dire de la commercialisation de son corps. Et comme par hasard, on tombe sur Pancake. On commercialise ses organes, on les met en bocaux, on les vend, et on fait effectivement un bénéfice là-dessus. Alors que je crois que notre entreprise n'a rien à voir avec ça, mais c'est beaucoup plus celui de constituer une communauté invisible, un continent invisible, une communauté par moments inavouable, parce qu'on ne peut pas avouer ce que nous faisons, parce que ça ne peut pas s'avouer publiquement, ça serait tomber au sens de Kafka dans le procès, d'être en coupable de sa propre existence. Mais nous sommes dans cette communauté inavouable et cette communauté invisible, et je crois que c'est ça l'urgence. C'est-à-dire, c'est l'urgence d'exister en tant que mode, non pas seul, mais ensemble. Et ensemble, sans être un groupe comme les situationnistes, etc. Mais simplement, ensemble, comme des individus qui se rencontrent, qui se télescopent, qui partagent un intérêt, des fois qui se disputent, etc.
Alors, on peut aller à Mécano Mode d'Emploi,
oui.
Qui est un texte qui n'est pas publié encore à l'heure actuelle.
Oui.
C'est quelque chose de considérable en taille. C'est un mode d'emploi des expériences poétiques actuelles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Mécano mode d'emploi?
Alors,
de cette masse de textes qui explicative et théorique sur ce qui se crée dans ces 10 dernières années.
Oui. Alors Mécano va être publié par les presses du réel. Alors, ça c'est la très bonne nouvelle. À l'origine, ça devait être en 2 tomes, et Michel Giroux a décidé de faire un très gros tome de 500 pages, et donc qui serait publié en 2008-2009. Hein. Il va y avoir une relecture, il va y avoir une part plus importante sur les anciens. Alors ça, c'est simplement indicatif. La chose, moi qui m'est venue, et comme je disais, c'est-à-dire que c'est pas que j'en avais marre, c'est que j'en ai eu tout de suite marre qu'on nous présente des choses, et en fin de compte, c'est le nom qui primait plutôt que le travail. Et on sait parfaitement comment s'organise. Moi, je suis organisateur de soirées quand même depuis 1999 et très très régulièrement depuis 2001. Moi, je sais exactement comment s'organise la plupart des invitations par les structures. On prend des noms et les noms qui vont pouvoir être commercialisés pour les subventions. Nous, on a refusé ça à Tramway. On a invité des auteurs très reconnus et on a invité des gens à faire leur première performance. Je pense à des gens comme la femelle du requin, c'était parmi leurs premières performances. Je pense à des gens comme les hermaphrodites que j'ai invités avant qu'ils me publient. Je savais même pas qu'ils allaient me publier à l'époque, mais que j'avais invité et c'était leur première performance. Sylvain Courtois, par exemple, que j'ai invité au tout début. Sylvain Courtois en 2001, je l'ai invité. Hein. Ça veut dire bien avant qu'on entende parler de lui. Hein. Jérôme Bertin, Emmanuel Rabu. J'ai invité vraiment des gens par des rencontres et par l'intérêt du travail. Et Mécano, justement, c'est ce geste-là, de dire arrêtons de nous payer de noms, mais réfléchissons sur ce que nous sommes en train de lire. Premièrement, nous ne pouvons pas tout mélanger. C'est-à-dire que on parle de modernité, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Christian Prigent, malgré toute l'admiration que j'ai pour son travail critique. Christian Prigent fait tomber la modernité dans quelque chose qui l'intéresse. Je crois que la modernité est plus large et va jusqu'à la postmodernité. Et par exemple, je suis beaucoup plus proche de gens comme Philippe Castelin, qui dirige la revue Tox, et avec qui j'ai une conversation maintenant depuis quelques années, et on est très 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 proche justement dans notre façon d'apercevoir le champ, c'est-à-dire la diversité et l'hétérogène qu'il y a dans ce champ, et non pas simplement une modernité de la négativité comme il y a chez Christian Prigent. Et donc Mécano, c'était faire des notules et agencer tout ça dans un livre, et un livre qui est un Mécano, c'est-à-dire sans mode d'emploi. Je ne donne pas le mode d'emploi de ce que c'est la poésie, en général, mais par contre, je donne le micro-mode d'emploi de petites parties du moteur. C'est-à-dire que nous avons des petites structures. Par exemple, moi, j'aimerais bien savoir, les gens, quand ils disent que Jacques Sivan, c'est bien, ce qu'ils ont lu de Jacques Sivan, ce qu'ils comprennent de Jacques Sivan. Hein, tu connais la difficulté de l'accès au texte de Jacques Sivan.
Justement, je viens de parler de Les aventures de Constant Mutant qui vient de paraître au dernier Télégramme. C'est une petite plaquette de... Une petite plaquette A6, en fait. Hein.
Donc, tu vois la difficulté de la textualité. Eh ben, il serait quand même important qu'on ait vraiment un texte qui l'interroge, cette littéralité, chez Jacques Sivan. On parle de Anne-James Chaton. C'est vachement bien, Anne-James Chaton. Moi, mon premier texte sur Anne-James Chaton date de 99. Je l'ai publié dans une revue de philosophie à l'époque. Mais il faudrait quand même s'interroger sur ce qui est en jeu chez Anne-James Chaton. C'est pas simplement un truc technoïde qui plaît esthétiquement, c'est qu'il y a une vraie problématisation à avoir à partir de Marx dont il est spécialiste, du corps effacé, hein, c'est-à-dire du travailleur qu'il a thématisé après et qu'il a publié chez Sens et Tonka. Donc j'ai voulu, en fin de compte, donner un accès réel, et ça devait être publié à l'époque chez Aldante, hein, avant qu'il fasse faillite, effectivement à tous ces auteurs, parce que je crois que le didactisme est urgent et nécessaire. Et s'il n'y a pas de didactisme, nous nous payons bien souvent de mots, d'effets de mode, et tout un chacun, nous savons, quand nous sommes à la mode, il y a des gens qui ont été à la mode, qui disparaissent, il y a des gens qui reviennent, et ils sont à la mode simplement parce que ce sont des noms, c'est-à-dire un véhicule commercial, une fois de plus. Et je crois que ce qui marque littérairement, c'est justement ce qui est en deçà de la mode, c'est-à-dire ce qui ne tombe pas dans la mode. Hein, j'ai envie de dire, c'est Heidegger qui le dit dans Introduction à la métaphysique, ce qui est à la mode n'est pas, c'est-à-dire n'a pas d'existence, puisque nous n'avons plus, effectivement, que son spectre. Justement, il s'agit de s'interroger sur la matérialité, la modalité des choses, leur consistance, pourquoi ça nous touche, pourquoi ça ne nous touche pas, leur critique, quand il y a des accès critiques, je crois aussi leur inutilité, parce que je crois qu'il y a des textes, il faut bien le dire, ils sont nuls. Et je crois que c'est aussi important de dire que des gens, des fois, qui sont à la mode, sont pas bons. C'est-à-dire, ils sont surévalués par un effet de mode. Et je crois que c'est aussi important de le dire en littérature, c'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, on ne peut pas l'accepter, ou si on l'accepte, on sait exactement le parti pris qu'on a pris à ce moment-là. Et à ce moment-là, il faut arrêter d'être recto verso, c'est-à-dire on ne peut pas critiquer d'un côté la société occidentale sur son mercantilisme, son consumérisme, sur l'ordre de l'apparaître, et de l'autre côté, faire la même chose systématiquement dans le milieu de la poésie.
Merci beaucoup, cher Philippe. Merci beaucoup.